Allez, on passe tout de suite. J'avais envie de passer un peu de temps avec vous sur ce chiffre-là qui m'a frappé, 67,6. Je l'attendais depuis longtemps, ce chiffre. On l'a maintenant. C'était pourtant simple de le calculer, une règle de 3.
Maintenant, c'est Daniel Guichard.
Ah oui.
Bah oui.
La totale.
Bah oui.
Bon vieux.
Le rapport actif-inactif, la durée de la vie à la retraite. Il y avait juste un petit calcul d'arithmétique à faire, une règle de 3 pour les enfants. Et ça y est, on sait, on va devoir travailler jusqu'à 67,6 ans. Mais le comité d'orientation des retraites n'a pas eu le courage d'aller jusqu'au bout de la vérité. Il nous a fait croire que c'était l'âge de la retraite nécessaire en 2070, alors qu'on doit dès aujourd'hui travailler jusqu'à 67,6 ans parce que nos comptes sont dans le rouge. Ça vous a fait quoi d'entendre ce chiffre? Moi, ça m'a fait quelque chose. Vous,
alors, moi, Emmanuel Lechypre.
Non, moi je trouve que ce rapport, il est pas très alarmiste en fait. Attendez, déjà 67,6 ans, c'est si vous jouez uniquement sur l'âge de départ à la retraite, pour rééquilibrer le déficit qui atteindrait 2,4 points de PIB en 2070. Après, il vous dit, bon, c'est surtout à partir de 2045 que la situation peut devenir critique. Et là, vous vous dites, bah, ça nous laisse quand même 20 ans pour essayer de trouver une solution qu'on n'a pas vraiment trouvée depuis 40, hein, à vrai dire. Depuis le livre blanc de Rocard en 91, finalement, on n'a pas tant que ça. On a avancé un peu quand même, mais on n'a pas avancé tant que ça. Moi, là où je suis mal à l'aise maintenant avec ce genre de travaux, c'est que c'est des travaux qui ne tiennent pas compte finalement des changements du monde dans lequel on est. Ouais. C'est-à-dire,
D'abord, est-ce qu'il y aura du travail pour les gens à 67 ans?
D'abord, le vrai sujet.
Est-ce qu'il y aura du travail?
Le vrai sujet, c'est la quantité de travail.
Bien sûr.
Donc déjà, mettons davantage de gens au travail avant de penser à repousser l'âge. En gros, dire, il y a déjà tous les bourricots qui bossent, qui sont pas assez nombreux. Si en plus, vous leur chargez la barque en leur disant, tu vas bosser encore plus longtemps. Non, il faut se débrouiller pour faire travailler beaucoup plus de gens. De la technologie. Ouais. Vous l'avez dit. Enfin, qu'est-ce qu'on sait? De
l'impact de l'IA sur le monde du travail.
Et donc sur la productivité et sur tout ça. Donc je pense que c'est une bonne guideline, c'est bien d'avoir retenu ce chiffre. C'est effectivement assez juste de dire qu'il faudrait s'en rapprocher quand même
un peu avant.
Quand il arrive, parce que comme on ne sait pas ce qui nous attend, c'est quand même la sagesse d'aller vers de tendre vers ce chiffre. Mais je trouve que l'exercice devient un peu désuet quand même.
Anna, quand on se projette avec la démographie, on baisse des naissances, allongement de la durée de la vie, augmentation des décès, les perspectives, effectivement, comme disait Emmanuel, sur l'IA et autres, les déficits, vous parliez tout à l'heure du déficit public aux États-Unis. C'est vous qui êtes économiste, vous dites là, on est sur une bombe, quoi. Je veux dire,
on est sur une bombe.
Comment résout ce truc-là? Parce que c'est pas en disant aux gens on va travailler jusqu'à 67 ans, c'est déjà quelque chose, mais ça suffira?
Bah, je pense qu'effectivement, le chiffre peut se s'avérer beaucoup plus élevé en fonction des générations. Parce qu'il faut quand même voir les générations, avec le temps, ont perdu en patrimoine financier. Et aujourd'hui, c'est vrai
c'est-à-dire
que, par exemple, tout ce qui est baby boomers, ils ont quand même à peu près 20% de plus de patrimoine financier que ceux qui sont aujourd'hui les Gen Z.
À âge équivalent, vous voulez dire ou...
Oui, à âge équivalent. Et donc, ça veut dire qu'effectivement, avec le changement démographique qui dit que sur 100 personnes qui travaillent aujourd'hui, qui vont travailler en 2050, de 16 à 64 ans, sur 100 personnes, 26 personnes, ils vont devoir financer 26 personnes à la retraite. Aujourd'hui, le ratio, il est 100 pour 16. Et donc, c'est vrai qu'il y a 60% d'une charge démographique qui augmente sur un patrimoine financier qui baisse.
Ok, mais donc, comment on fait donc la question?
Donc, du coup, ça veut dire qu'en fait, pour compenser, déjà, il faut épargner plus pour les générations d'après, donc il faut encore pouvoir épargner. Même si on épargne plus, on ne sait pas exactement quel est le rendement de notre épargne. Donc, si on prend, je ne sais pas, 3% en moyenne sur les 25 années à venir, ça veut dire que quelqu'un comme moi, qui est génération millennials, devrait avoir un âge de départ à la retraite après 70 ans. Et en plus, il faut déjà aujourd'hui réfléchir sur le fait que les retraites, c'est quand même assez généreux en France et ils sont indexés à l'inflation. Et en fait, la France, c'est parmi les seuls pays où le patrimoine financier des retraités
continue à augmenter. Comment on explique ça?
Parce qu'il y a les effets du passé. Il y a les effets de richesse du passé. Aujourd'hui, moi, j'aurai moins d'effets de richesse à venir puisque le marché immobilier est moins fort, parce que la croissance est plus faible.
Vous ne savez pas ce que ce sera le marché immobilier au moment où il sera à la retraite.
Déjà sur les 10 dernières années, j'ai pas bénéficié.
Si, on peut le savoir.
Pourquoi?
Et parce que vous avez... moi, je suis convaincu qu'on va vers... on va avoir un âge d'or de l'épargne qui va se diriger vers les marchés financiers, qui va être terrible. Qu'est-ce qui se passe? À partir de 2037, la population va diminuer.
Okay.
Dans un pays dans lequel la population diminue, la pression démographique sur le logement, elle est beaucoup plus faible. Regardez au Japon.
Pourquoi c'est un âge d'or? Ça va être la catastrophe.
Parce que, qu'est-ce qui va se passer quand vous allez vous retrouver avec un marché de l'immobilier qui va progressivement se rééquilibrer, ouais, et peut-être même devenir excédentaire en stock de logement? Le prix de l'immobilier, ça va, oui, baisser.
Non, sauf s'il y a des étrangers qui viennent en France.
Donc, si vous voulez financer votre retraite, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez plus vous dire, je m'achète mon appart et je le revendrai deux fois plus cher à la retraite. Donc, votre épargne, vous allez aller la placer où? Alors, d'abord, vous vous logerez pour moins cher. Ça, c'est quand même un point positif. Et deux, pour préparer votre retraite, votre épargne, vous la mettrez où? Vous la mettrez pas dans l'immobilier.
À condition de gagner de l'argent.
Parce qu'on sait que les Français ne sont pas les plus forts à constituer un patrimoine financier dans des actions, des obligations. Les Allemands, un peu plus. Mais les Français sont soit l'immobilier, soit le livret A.
Mais vous verrez que c'est l'immobilier.
Et donc, il faut aussi changer le système éducationnel pour que les jeunes d'aujourd'hui aient une culture financière et une éducation financière pour construire le patrimoine de demain.
Éric Lewin, vous qui êtes déjà retraité.
Il faut mettre tous les gens au travail. J'ai regardé que les 65-74 ans, en France, ils sont 5% à bosser. Alors que, par exemple, un pays comme la Corée...
Regardez même les 59-64, ouais, c'est déjà catastrophique.
Un pays
par exemple,
comme la Corée, qui a des gros problèmes, puisqu'ils ont un actif... Il y a un actif pour 1,2 actifs pour retraité.
Et un taux de fécondité le plus bas du monde.
C'est un taux de fécondité. Ils en ont 40% qui travaillent entre 65 et 74 ans. Donc comment voulez-vous que, si on ne met pas les gens qui travaillent, comment voulez-vous, avec un taux de participation de l'emploi qui est à 70%, alors qu'il est à 77% en Allemagne et 75% en moyenne dans les pays de la zone euro, comment voulez-vous que le pays s'en sorte? Il faut mettre
les
gens à bosser.
Mais alors, vous qui êtes un homme politique, que font les politiques?
Eh ben, c'est
quand on regarde, les programmes, franchement, c'est à pleurer.
L'homme politique qui dit demain la retraite à 70 ans, comme au Danemark en 2040, on baisse de 25% les dépenses sociales, il fait 2% aux élections. Donc personne n'a le courage de prendre les réformes.
Et donc on va pas avoir de réforme, donc on va dans le mur. C'est quoi votre...
Mon sentiment, c'est tant qu'on n'est pas attaqué par les grands fonds d'investissement sur la dette française qui vont faire comprendre
mais
qu'on fait n'importe quoi.
C'est un moment que je l'avais
annoncé. Ben oui, mais il se passe
jamais
rien.
Arrivé, je l'ai dit moi-même.
On va aller dans le mur tant qu'il n'y a pas les grands fonds qui vont vendre la dette française, tant qu'il n'y a pas une attaque sur la dette française.
On ne va pas aller dans le mur, on va aller jusqu'au pied du mur.
Okay.
Et là, au pied du mur, quand on s'apercevra qu'il va y avoir une génération qui va arriver, et massivement, quand vous regardez les prévisions sur le nombre de plus de 80 ans qui va exploser, ça se compte en millions.
Bien sûr.
Donc il va bien falloir... Et là, il faut faire confiance à la plasticité de l'économie, à l'inventivité. Il va y avoir plein de nouveaux métiers, plein de nouveaux business. Vous aurez des tas de vieux en bonne santé et qui s'occuperont des plus vieux en mauvaise santé, parce que ça va... Non, moi, je suis pas du tout...
Ça fait rêver, votre truc.
Ah bah non, ça fait pas rêver, mais c'est la vraie vie. Il y a un moment où, quand vous pouvez plus...
Frédéric, vous qui êtes loin de l'EHPAD, contrairement à nous, qu'est-ce que vous pensez de tout ça?
Moi, je suis
vous économisez?
Non, mais je suis foudrage, parce que la solution, c'est pas forcément l'âge, c'est la capitalisation. Je vois ce qui se passe en Norvège avec un fonds souverain qui est capable de sécuriser, parce que la dynamique de la natalité en Norvège, honnêtement, on le sait très bien, c'est pas un pays du Sud.
Non.
Eux, ils ont sécurisé leur retraite sur les 25 années qui viennent. Pourquoi? Parce qu'ils ont un fonds souverain aujourd'hui qui gagne des milliards et des milliards.
Mais c'est pas un bon exemple. La Norvège, ils sont assis sur un mat.
Nous, on a de l'épargne. On a de l'épargne simple on a aussi...
Elle est mal orientée.
Elle est mal orientée. Donc, la question, c'est... Il suffit simplement de mettre une touche de capitalisation. On sécurise nos entreprises. On permet.
Mais elle existe quand même, la touche de capitalisation. Quand on a un PER, c'est de la capitalisation.
Oui, mais ça, c'est personnel. Mais le financement des retraites globales, c'est quand même. On arrêtera comme ça de gueuler finalement sur les dividendes de Total, puisqu'ils reviendront à la communauté par le biais de la capitalisation.
Amen.